Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 15h50, nous sommes en direct du Palais des Festivals à Cannes. On est au Salon des Ambassadeurs, on le trouve très facilement. Et je peux vous dire que j'ai un job en or puisque je vois la mer juste en face de moi avec un temps magnifique. Que rêver de plus? Voilà, seconde journée du MIPIM, c'est la 34e édition ou la 35e si on compte l'année Covid, par exemple. Donc, inutile de vous dire que c'est le rendez-vous de l'industrie immobilière à l'échelle mondiale puisque plus de 105 pays sont ici représentés, pratiquement 21 000 participants pour cette session. On va parler justement des MIPIM Awards, des projets iconiques qui seront récompensés et on aura les résultats demain avec nos amis d'ailleurs de Nexity ici présents sur le plateau. On va évoquer ces deux projets qui ont été retenus, qui sont lauréats et dont on aura les résultats demain. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, j'avais déjà fait une très jolie émission à l'Hôtel de Ville à Lyon avec lui, Frédéric Marchal. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
À merveille.
Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes directeur général adjoint pour l'immobilier résidentiel chez Nexity. Vous êtes également délégué régional pour toutes les marques de Nexity. Merci d'être ici. Voilà, on n'est pas très loin de Lyon d'ailleurs. Hein. On est quoi, 3 heures de route?
4.
4 heures de route. Ah oui, quand même. 4 heures de route. Merci en tout cas, Frédéric, d'être avec nous. Je crois que c'est la première fois que je le laisse sur le plateau. C'est avec beaucoup de plaisir. Bonjour, Christine Verrague.
Bonjour, Sylvain.
Comment ça va?
Très bien, oui.
Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes directrice immobilier des régions pour Nexity Entreprises.
Exactement.
Merci d'être avec nous. Voilà, une légende dans le métier qui est avec nous également. Je suis ravi de la recevoir. C'est Élodie Benoît. Comment ça va?
Ça va très bien. Bonjour, Sylvain.
Voilà, c'est le côté légende. Moi, j'aime beaucoup. Merci. Directrice générale pour Ville et Projets, pour Nexity Transformation des Territoires, avec un président qu'on aime beaucoup, c'est Jean-Luc Porcédo, on lui fait un petit clin d'œil. On le retrouvera d'ailleurs tout à l'heure dans la seconde partie de l'émission. Cette table ronde, je vous le dis les amis, c'est de parler de projets iconiques. Quand je dis iconiques, vous le savez, souvent je parle de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés, d'idées, d'usages, de mixité, voilà, de tout ce qui fait aujourd'hui ce bouillonnement extraordinaire autour de la ville, un métabolisme lent qui se transforme, un organe vivant qui pose parfois question. Et d'ailleurs, on peut se le dire, dans un marché chahuté, le tout bouleversement est propice au changement. Et donc, c'est bien aussi de voir venir se récompenser des projets sur lesquels on a beaucoup investi en termes d'énergie. Je vais commencer par vous, Frédéric et Christine. On va parler d'abord de ce projet plus largement. Frédéric, pour le projet de Lyon Confluence, un projet à l'échelle d'une région très iconique, très totémique. Dites-nous en quelques mots, puisque ce projet, on en a beaucoup parlé, vous et moi, représente véritablement une marque, j'allais dire, qui tranche dans un paysage urbain qui veut aujourd'hui devenir extrêmement moderne.
Une très belle introduction. Merci Sylvain.
Merci Frédéric.
Ça donne envie d'être motivant sur le sujet. Effectivement, nous avons été lauréats d'une consultation lancée par la ville de Lyon en juillet 2021, qui nous a vu attribuer différents îlots pour réaliser un vaste programme qui représentera à terme 14 500 m² de locaux d'enseignement supérieur et 230 logements. C'est d'une certaine manière un peu un quartier de ville que nous sommes invités à faire, avec, pour gagner ce concours, trois grands piliers qui ont sous-tendu les éléments de notre réponse. La ville et la métropole voulaient un projet très plastique, très adaptable, très mobulable, très réversible, voilà, propre à accueillir toutes les demandes possibles, tant en enseignement supérieur qu'en logement. C'était le premier pilier. Le deuxième pilier, c'était un projet très sobre énergétiquement et très bas carbone dans sa vocation. Et le troisième, c'était un projet pour tous, c'est-à-dire adapté à tous les prix, à tous les besoins socio-économiques. C'est ça qui a fondé en fait le choix de la collectivité. On a été jugé pertinent sur ces trois piliers.
Je trouve ça extrêmement inspirant, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, de se dire qu'on fabrique un morceau de ville. Parce que moi, j'entends dans morceau de ville, c'est morceau de vie aussi. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est là qu'on se dit que finalement, votre métier est intéressant parce que vous fabriquez avant tout des lieux de vie où se définissent des projets, des envies, des désirs aussi. Et c'est bien ça que la ville doit représenter dans sa globalité. Ce qui est distingué, c'est la partie, j'allais dire, éducative. Je ne sais pas si je emploie le bon terme. C'est les pratiquement 15 000 m² dédiés au campus, justement, Lyon Confluence. C'est ce projet-là qui est retenu demain à la finale des MIPIM Awards. Christine.
Tout à fait, c'est celui que nous présentons demain. C'est un projet qui regroupe 5 bâtiments pour 14 500 m². La moitié est en cours de construction, 8 000 m² sur 2 bâtiments que nous avons loués à Galiléo, dans lequel donc seront installées des écoles diverses et variées, comme du commerce, du théâtre, de l'art. Et nous sommes très fiers de travailler avec Galiléo sur ce projet. Et ensuite, une deuxième phase qui se réalisera dans un second temps de 7 000 m² répartis sur 3 bâtiments également dédiés à l'enseignement.
Il y a une dimension particulière quand on crée un campus de cette nature.
En fait, il y a une dimension particulière parce que En fait, on a essayé de créer quelque chose, des bâtiments qui répondent aux attentes et qui anticipent les attentes des utilisateurs. Donc on a besoin en fait d'avoir des bâtiments qui soient très flexibles, avec des espaces de travail qui soient très adaptables, avec une réversibilité possible. Et c'est pour ça que, par exemple, nos plateaux de bureaux n'ont absolument aucun mur porteur ou poteau. Et donc ça nous permet en fait d'avoir une parfaite réversibilité et flexibilité des usages. Donc ça, c'est le premier point qui, pour nous, était très important dans la conception. Dans la conception aussi, on s'est attaché à satisfaire les attentes des utilisateurs. Par exemple, on aura un rooftop, on aura beaucoup d'espaces extérieurs paysagers. On souhaite en fait que les gens se sentent bien dans ces bâtiments, que les élèves s'y sentent bien, que les professeurs également. Donc ça, c'est important. Il y aura des espaces communs partagés, des salles de cours, de conférences. Et donc, dans la conception, on a essayé d'être attentif à tous ces sujets-là. Et puis, le dernier point qui est un point essentiel également, c'est le côté bas carbone. Donc, au niveau environnemental, on a été très, très performant, puisqu'on va chercher des labels comme le BBCA, E3C1, le HQE Excellent et le bâtiment biosourcé. En fait, c'est un bâtiment qui sera mixte, enfin, dont la structure sera mixte bois-béton. C'est un bâtiment qui n'aura pas de clim. Donc, on a anticipé les calculs nécessaires pour que le confort des utilisateurs soit préservé malgré l'absence de climatisation.
Été comme hiver.
Et alors, ça, c'est plutôt pour l'été. Oui. Et en revanche, pour l'hiver, il y aura du chauffage, oui, puisqu'on est connecté au réseau urbain.
C'est génial.
Voilà.
C'est génial. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée d'anticiper. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez déjà pensé à la vie future du bâtiment.
Toujours, toujours. En fait, quand on conçoit un bâtiment, c'est ça qui est intéressant.
C'est-à-dire que ça peut devenir du logement.
Ça pourrait.
En fait, le bâtiment est conçu de telle façon qu'il devient multipolaire, finalement, protéiforme.
Oui, tout à fait. Et puis le fait de n'avoir ni poteau ni mur porteur, ça permet d'envisager tous les usages. Donc du bureau, de l'enseignement, éventuellement du logement. Enfin voilà, tout est
mais
possible.
Quelle technique vous avez utilisée ? Est-ce que vous avez pris un architecte qui s'est cassé la tête, qui a pondu un projet très innovant ?
Alors vous savez quoi ? On n'a pas pris un architecte, on en a pris 3. Parce qu'en fait...
En fait, vous avez pressé le jus d'un cerveau d'un architecte et vous avez fait un mélange avec toi.
Non, c'est toujours un travail d'équipe. Parce qu'en fait, on ne travaille qu'en équipe. Et donc, l'équipe qu'on a constituée avec les architectes, que sont Baumschläger, Petit Didier Priou et Atelier en Ville, avec lesquels on a conçu ces 5 bâtiments d'enseignement. Et effectivement, tout le monde se challenge. En fait, c'est ça qui est intéressant. On a été aussi très challengés par la SPL. Il y avait des attentes fortes. On a essayé d'y répondre. Et c'est important d'avoir ce travail d'équipe où tout le monde se challenge. Tout le monde regarde un petit peu comment faire mieux, à coût maîtrisé, parce que c'est important aussi pour que l'opération fonctionne bien. Et donc on s'est mis autour des tables et on a travaillé avec les architectes et les différents maîtres d'œuvre d'exécution et BET pour trouver la meilleure solution, et on a été retenu grâce à ça.
C'est là qu'on voit finalement qu'il y a eu un vrai changement dans la façon de travailler, dans la façon d'imaginer. Avec Frédéric, on se connaît depuis quelques temps, on parle souvent justement de que nos métiers changent, que finalement ce bouleversement, il faut... Et ces changements, on peut comprendre d'ailleurs que les bouleversements soient parfois un peu anxiogènes, mais ce sont des formidables opportunités pour créer cette émulation. Vous savez, quand vous avez dit qu'on fait appel à plusieurs intelligences, ça m'a fait penser à un livre de Michel Serres qui s'appelle « Le tiers instruit », qui a été publié il y a une trentaine d'années, qui dit qu'aujourd'hui, le 21e siècle, c'est la somme de l'intelligence collective. C'est plus quelqu'un qui s'attribue le bénéfice d'un projet, c'est la somme finalement de toutes ces énergies qui illustrent bien la société dans laquelle on vit. Parlons du village des athlètes aussi, qui est un projet iconique. Décrivez-nous un petit peu ce formidable projet que vous allez, là, qui est en train de naître sous nos yeux.
Oui, dernier qui a été livré il y a 2 semaines.
Maintenant. Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais. Ouais. Parlez-nous-en.
Alors, on avait coutume de dire entre nous que c'était le plus gros chantier monocyte d'Europe. Alors maintenant, c'est le premier, le plus gros chantier livré monocyte d'Europe.
C'est vrai. Hein.
C'est un projet qui est immense, qui est du jamais vu. C'est 250 000 m².
C'est énorme.
Voilà, ah oui, il y a 2500 énorme. Logements à terme, logements familiaux.
C'est incroyable.
C'est un projet qui est à la fois de la réhabilitation, de la construction neuve, qui s'étend sur 3 communes, sur Saint-Ouen, Saint-Denis et l'île Saint-Denis. Donc en plus, on traverse la Seine. Enfin, voilà, on a quand même créé un pont. Alors pas nous Next City, mais nous la Solidéo, nous le projet. Et je m'inscris complètement dans ce que vous venez de dire, c'est de l'intelligence collective. Enfin, voilà, on n'a jamais raison tout seul dans son coin. C'est vraiment un projet qu'on a porté avec les décideurs publics, avec l'aménageur public, avec les équipes de Paris 2024. C'est vraiment un projet qui est immense dans le terme, enfin, la quantité de jus de cerveau mobilisé pour arriver à créer un projet qui soit absolument...
Combien de temps pour y arriver, Elodie ?
5 ans. En 5 ans, on a fait ce que nous, on fait d'habitude en 20 ans.
Vous voulez que je vous dise, moi j'ai l'impression que c'est hyper rapide en fait. Est-ce que ça change ça ?
Alors ça a été 5 années un peu intensives quand même.
Ouais. Ah oui, mais.
Mais oui, c'est très très court. En fait, 250 000 m², c'est vraiment nous à l'échelle de l'urbanisme. C'est ce qu'on fait avec Frédéric, par exemple, je pense à Saint-Priest. C'est des projets qui durent 20 ans. C'est pas des projets qui se font sur 5 ans. Là, ça se fait parce qu'on a l'impératif de livrer pour l'événement international qui sera accueilli à Paris au cadre de l'enquête des Jeux de Paris. Donc on avait cette deadline-là qui ne bouge pas. C'était notre curseur qui ne pouvait pas se décaler. Peu importe le Covid, peu importe la crise, peu importe la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise du logement, on n'a pas le choix. Donc c'est vrai que cet impératif-là, il nous a guidés et il nous a forcés aussi à créer du compromis, à trouver des solutions, à innover, à décider, à prendre des choix courageux pour pouvoir tenir les objectifs qu'on avait sur le plan environnemental et architectural. Donc ça, c'est vrai que c'était un cadre qui est inédit et qui nous permet d'être au rendez-vous des objectifs.
Rétrospectivement, quand on se dit qu'on a livré une telle opération, il y a de quoi être fier collectivement, justement, ouais, d'un ouvrage, d'un morceau d'architecture, et de se dire finalement, Frédéric nous disait avec Christine que vous avez créé un quartier de ville, et un quartier de vie. Vous imaginez, parce qu'il va y avoir des génies qui vont sortir du campus, il y a des gens qui vont y vivre. Moi, je connais bien cet endroit, parce que comme tout le monde le sait, tu le sais aussi, je suis lyonnais, bien sûr, mais j'ai une grande fierté. D'ailleurs, tout à l'heure, on a le maire de Lyon qui vient. On lui posera, bien sûr, la question. Je vais lui demander de voter pour son projet, ici, pour les BPM Awards. C'est vraiment une grande satisfaction, sans faire d'égo démesuré. On se dit que c'est là la marque, finalement, l'ADN du groupe Next City dans sa démarche proactive, qui est celle d'être à la fois un acteur global dans l'immobilier, mais un acteur déterminé dans la cité. Je parlais tout à l'heure de métabolisme. C'est pas quelque chose d'éthérique. J'ai développé cette idée justement dans une très jolie émission hier matin avec Philippe Cambaretta, qui est vraiment extrêmement intéressant dans sa réflexion. Quand on prend justement avec l'expérience, on se dit qu'on aborde un immobilier différent aujourd'hui, un immobilier dans lequel la santé publique a de l'importance, l'air intérieur. Ça a l'air de rien, mais l'air intérieur a de l'importance. La façon dont vous avez conçu, justement, ce confort d'été, la façon dont on va utiliser, par exemple, la géothermie, si on peut utiliser la géothermie. Est-ce que, Élodie, on n'est pas en train de devenir, dans l'immobilier, finalement, des polytechniciens au sens étymologique du mot ? C'est-à-dire, finalement, des personnes qui utilisent de telles disciplines très diverses et variées que, finalement, tel un chef d'orchestre, dans une ville, on arbitre entre 10, 20, 30, peut-être beaucoup plus de disciplines que cela.
Alors, il faut nécessairement être quelqu'un de très curieux, il faut être polyvalent, il faut savoir sortir de sa zone de confort pour pouvoir prendre des décisions correctes.
Techniquement, juridiquement, financièrement.
Sur le point de vue des assurances aussi, il y a plein de sujets sur lesquels, dans le cadre du Village des Athlètes, on a dû créer un cadre légal qui n'existait pas. Donc on a dû innover vraiment
par exemple,
à toutes les échelles. Bah, là, je pense notamment sur la question de les assurances, puisque en fait, la spécificité du Village des Athlètes, c'est qu'on livre un projet 2 fois. C'est le même projet, c'est la même enveloppe, mais on le livre 2 fois dans 2 états différents. On le livre une première fois. On le met à disposition de Paris 2024. On le récupère le 1er novembre 2024.
Et il est remis sur le marché.
Et voilà, c'est ça. Et là, on doit faire nos travaux de réversibilité et on doit le livrer dans sa version définitive. Donc on s'est retrouvé face à cette situation complètement inédite de se dire, mais en fait, je le livre 2 fois, mais est-ce que c'est 2 états, c'est 1 seul état, comment ça fonctionne? Et là, c'est vrai que la logique du permis double état qui avait été initiée par le gouvernement dans le cadre du décret de la loi olympique n'était pas allée jusqu'au bout. Donc on a dû tous ensemble essayer de trouver le cadre dans lequel on allait travailler. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, alors moi je suis aménageur à la base, donc l'urbanisme, c'est nécessairement une discipline qui est en fait, multiples. Mmh. Et on est forcément des grands chefs d'orchestre. Et là, je trouve que dans un cadre immobilier, on a dû, nous, rentrer dans un cadre qui est très similaire à celui de l'aménagement. Et ça, et c'était plus, très, très intéressant.
Et puis, vous avez la particularité, vous, dans votre carrière aussi, d'avoir la connaissance de l'élu local. Hein. Vous l'avez travaillé à la ville de Massy, donc vous comprenez bien les difficultés ou les aspérités qui sont liées d'abord au pouvoir local et aux différentes institutions qui ont géré d'ailleurs l'opération. Je prends juste un exemple. J'avais hier matin Éric Césari, vice-président de la métropole du Grand Paris, qui est donc finalement le bras droit de Patrick Ollier. C'est une institution qui travaille aussi sur le plan de la métropole du Grand Paris avec une autre institution qui est aussi le conseil régional d'Île-de-France. Et c'est pas simple, finalement. Parce que vous avez travaillé avec trois communes, donc trois élus locaux, avec effectivement les aménageurs publics, avec l'établissement public foncier. Donc, j'allais dire que si on devait ajouter à votre arc une qualité, c'est celle aussi de la diplomatie.
Oui, et puis les services de la préfecture aussi, mais je pense que c'est le cas pour vous aussi. C'est que quand on arrive dans des projets qui sont de cette taille-là, de cette dimension-là...
Mais comment vous avez fait pour y arriver en 5 ans, quoi ?
La volonté politique, beaucoup, beaucoup de travail et je crois un engagement aussi dans les équipes.
C'est énorme.
Enfin, il faut un peu une forme d'abnégation. C'est aussi un projet qui porte beaucoup de valeurs. Et là, je représente le village des athlètes, mais on est nombreux et on est nombreuses. J'ai aussi des consoeurs chez ICAD, chez Vinci, qui ont travaillé sur le projet depuis le début. Ouais. Et c'est vrai que là, on voit à la ligne d'arrivée, finalement, les gens sont toujours là.
Fierté.
Ouais. Ouais, et puis en fait, on ne peut pas lâcher le morceau au milieu, quoi.
Est-ce que finalement, Christine... dans nos métiers qui sont parfois un peu techniques, ce qui nous permet finalement d'avoir suffisamment de recul, c'est cette passion que l'on a pour son métier. Quand vous dites, voilà, j'ai justement sur ce projet du campus, vous vous dites quand même, il va y avoir combien de personnes maximum dans ce campus ? Plusieurs milliers.
Ah oui, bien sûr.
Et là, vous vous dites, imaginez, vous repassez, puis vous voyez des milliers de personnes, des jeunes qui viennent avec leur vélo, et vous dites quand même, j'y suis un peu pour quelque chose avec mon groupe.
Alors en fait,
ça doit être quelque chose, hein, de voir ça.
En fait, quand le maître d'ouvrage, c'est un chef d'orchestre. On part de rien, on part d'un terrain, et on conçoit en fait un bâtiment avec toutes les équipes techniques, juridiques, administratives, et on essaye de sortir un bâtiment qui, au final, va être habité. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un terrain, et à la fin, vous avez des gens qui, on l'espère, vont pouvoir être heureux dans ces bâtiments. Et ça, c'est super. C'est une vraie passion des gens de l'immobilier. Moi, je ne connais que des gens passionnés qui font de la promotion immobilière et qui travaillent dans l'immobilier. C'est un métier humain. On parle beaucoup de télétravail, de distance, etc. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui est super important, c'est l'humain. Parce que, en fait, ce sont des équipes qui travaillent ensemble, main dans la main, dans un but commun, c'est d'arriver à livrer un bâtiment dans lequel les gens vont être heureux et vont bien utiliser le bâtiment. Et ça, c'est super. Et après, quand les gens vous font des retours positifs en vous disant « Mais c'est super, vous avez conçu ça comme ça, mais ça, c'est super, c'était une super idée !» Eh bien, en fait, on est fiers. Ah, voilà, on est fiers.
J'aime beaucoup ce que vous dites parce que c'est une phrase, alors c'est un peu une phrase facile, mais aucune application digitale ne remplacera une poignée de main. Mmh. Et que, heureusement encore... l'être humain que nous sommes, on a encore besoin de ce contact tactile. Je dis tactile, hein, je dis bien volontairement tactile. On a besoin d'être en proximité. D'ailleurs, c'est intéressant parce que sur le télétravail, on voit des retours, cette volonté de se retrouver, et pas uniquement à travers un écran interposé, mais aussi ce contact physique. Vous êtes aussi l'incarnation dans vos projets très différents. Parce que moi, je vois un dénominateur commun quand même dans les deux projets. Hein. C'est l'ADN que vous représentez dans le groupe Nexity. Cette volonté de faire souche et communauté dans un monde qui est quand même un monde aujourd'hui multipolaire, qui est souvent chahuté. On parle beaucoup, par exemple, avec les politiques qui sont passées sur le plateau de divers pays d'Europe. On se dit souvent, on peut regarder l'intelligence collective liée à l'architecture et l'urbain en fonction du régime politique qui nous gouverne. Hein, vous rappelez cet urbanisme triomphant soviétique qui était massif, carré, sur la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, etc. On peut aussi penser que l'urbanisme participe aussi de cette idée d'une collectivité, d'une communauté d'hommes. Alors, je ne suis pas naïf au point de penser qu'on va tous vivre dans un kibbutz et qu'on va tous partager nos repas ensemble, mais quand même, dès le XVIe siècle, Thomas More avait réfléchi dans un livre qui est magnifique, que je vous conseille vraiment de relire, qui s'appelle Utopia, où il décrivait la ville de demain. Voilà, on parle de ça il y a cinq siècles. Je trouve ça absolument remarquable, parce qu'au-delà de ce que vous faites, ce que vous avez fabriqué, ce que vous avez créé, restera bien après vous et continuera d'exister. Prenons un aspect justement un peu plus technique. On a beaucoup fait du bashing béton. Moi, je trouve que c'est assez injuste parce qu'il y a 250 formules en France de béton bas carbone. Vraiment, de très très haute qualité. Tout à l'heure, Christine disait, on a fait un assemblage mixed-use entre le béton et le bois. Pour moi, c'est ça l'intelligence. C'est du vrai bon sens. On n'est pas tout bois et on ne fait pas feu de tout bois, sans faire de jeu de mots. On n'est pas hyper bétonneur dans le sens négatif du terme, on se sert des deux. Et ça, c'est la première notion, j'aimerais avoir votre réflexion sur les nouveaux matériaux. La deuxième réflexion que j'aimerais avoir aujourd'hui, c'est cette incursion massive du digital, de la tech, qui nous fait croire que finalement, notre métier ne servira plus à rien demain. Voilà. Alors, effectivement, on a tous salué, je pense que vous aussi, vous avez salué le BOS, le Building Operating System, le Building Information Model, qui nous permet effectivement d'optimiser. Vous avez tous aussi réfléchi sur l'économie circulaire, sur des dispositifs de fabrication hors site pour réduire les nuisances. Effectivement, c'est pas agréable de voir passer 15 camions, 3 toupies, toutes les heures, en face de chez soi. Je voudrais votre réflexion, justement, sur ce quotidien auquel vous faites face, ces injonctions contraires entre une norme qui vous dit « fais ci » et une autre qui vous dit « bah non, ça ne va pas être possible », etc. Comment donnez-nous, voilà, ce que j'aimerais vous entendre de vous trois, si vous voulez bien, c'est votre expérience comme ça, à brûle pour point, justement, sur ce que vous faites avec toutes ces injonctions qui vous frappent parfois, durement, dans votre métier. On va commencer par vous, Christine. On est plus dans le domaine de l'échange.
Tout à fait. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, je suis arrivée chez Nexity il y a 10 ans pour commercialiser notamment les bâtiments en bois e-wood. Chez Nexity, il y a une réflexion sur les bâtiments tertiaires pour se dire en fait dans quel délai je peux livrer un bâtiment. Il faut que je sois rapide parce qu'en fait, les entreprises ont besoin, à partir du moment où elles prennent la décision de déménager, il faut qu'on puisse leur offrir un bâtiment rapidement. La meilleure façon de répondre à cette demande, c'était de faire des bâtiments en bois. Il y a 15 ans, tout le monde se moquait de moi en disant « Ah là là, les trois petits cochons, la pérennité du bois, etc. » Et aujourd'hui, 15 ans après, on a une grande expérience en bois. Nous, en région, on fait plus de 30% des bâtiments en structure bois, et c'est vraiment intéressant. Mais c'était il y a 15 ans, et depuis, on se réinterroge. On se réinterroge comment ? On se dit, tiens, comment on pourrait faire à nouveau des bâtiments bas carbone, avec une analyse du cycle de vie qui soit intéressant ? Donc on a travaillé, et on est en train de réaliser un bâtiment en béton de chambre. On est toujours en train de se poser des questions parce que rien n'est acquis, rien n'est définitif, et c'est ça qui fait aussi l'intérêt de notre métier.
Ça, c'est une grande preuve d'humilité, hein, je vous le dis. Ça nous rend très humbles finalement
quand on voit ces
évolutions. Frédéric, justement sur toutes ces idées. Alors vous, en plus, vous avez une expérience importante dans le métier, vous avez tout vu. Et quand on voit tous ces grands défis, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui?
Il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée et qui est pour moi essentielle, consubstantielle même de notre métier. C'est que nous n'avons fait, nous ne faisons jamais que des prototypes à chaque fois. Puisque c'est chaque fois un site très particulier dans une rue, dans un environnement physique, géophysique, un environnement politique, économique. Et donc chaque opération est un prototype et on constitue pour ce site, à l'endroit où on imagine le faire, une équipe qui va être unique et qu'on ne retrouvera jamais. Un architecte qu'on va associer avec des bureaux d'études, une association avec des politiques qu'on ne retrouvera pas dans la même configuration, des entreprises qu'on va aller chercher, des commercialisateurs, un notaire. Chaque fois, c'est finalement la construction d'une équipe qui n'aura de vie que pour le temps du projet concerné. Et une fois que le projet est achevé, qu'on part sur un autre projet, c'est une autre aventure qui commence. Ça nous donne, à cause de cela, la nécessité d'une agilité permanente qui est dans notre ADN. On n'est pas des gens souples par capacité naturelle. C'est qu'on est souple par la nécessité de toujours se projeter dans un prototype qui pose en lui-même ses propres contraintes. Et donc, chaque fois, on est dans l'adaptation. Donc, tu salues une qualité en nous reconnaissant des gens adaptés et adaptables. Et on t'en remercie tous. Mais je veux dire, si on n'est pas adaptable, on a disparu. Parce que notre vocation, c'est de faire des bâtiments singuliers. Ce qu'a fait Elodie est un projet absolument singulier. Elle n'en aura pas un deuxième dans sa vie qui correspond à ça, ni nous non plus, et c'est vrai de tous les projets. Et donc, au fond, si tu veux, c'est la passion de ce métier, c'est, comme on l'a déjà dit depuis qu'on est ensemble, c'est faire la ville Et c'est vrai que passer 3 ans après, 5 ans après, dans une rue en disant « Celui-là, c'est moi qui l'ai fait », c'est quand même un privilège que peu de métiers peuvent avoir. Deux, c'est aussi la capacité de se dire « Quel est le beau projet, le bon projet dans le temps et dans le moment qui nous intéresse compte tenu des contraintes qui sont celles du site ?» Et au fond, ça nous rend humbles parce qu'on a raté des trucs et on en réussit beaucoup, heureusement, mais on n'est jamais sûr de réussir.
Je ne l'avais pas vu de cette façon-là, mais j'aime beaucoup cette phrase. Chaque opération est un prototype. Parce que finalement, je reprends, alors je fais un peu de philosophie, j'aime bien ça, hein, pour dire la vérité. Albert Camus disait une chose très juste. Le danger de l'unité, c'est l'uniformité.
Ah ben on en est épargné, l'uniformité.
Et c'est intéressant parce que tu crées des vraies pièces qui finiront paraît effectivement, et donc l'idée du prototype me plaît beaucoup. Quelques réactions, Élodie, justement, sur ce qu'on vient d'échanger, avec finalement tous ces... Voilà, c'est très bouillonnant comme idée.
Alors, réaction un peu terre-à-terre sur ce que tu disais, Christine. Nous, ce qu'on se dit beaucoup, Village des athlètes, c'est on utilise le bon matériau au bon endroit. Et ça, c'était aussi un impératif de la réversibilité, du réemploi. Mais c'était de se dire, on a un objectif de carbone qui est extrêmement ambitieux parce que l'objectif, c'est qu'on arrive à tenir une empreinte carbone qui se limite à 50% des précédents villages. Donc ça veut dire concrètement, nous, on a un plafond qu'on ne dépasse pas, qui est 700 kg de carbone par mètre carré. C'est ultra ambitieux, on n'avait jamais fait ça. On va au-delà du E3C2.
Et ça a marché.
Et ça a marché parce qu'on utilise effectivement beaucoup de bois, qu'on utilise des matériaux biosourcés, du béton bas carbone. On a du mix à chaque fois du mix.
Contre toute attente, ça a eu un impact nettement supérieur. Quoi.
C'est ça. Et alors, par contre, contrairement à ce qu'on peut penser, effectivement, il y a beaucoup de bois, mais on a des bâtiments qui sont intégralement en béton. En béton bas carbone, certes, en béton préfabriqué bas carbone pour avoir des qualités de prestation, etc. Mais on a bien travaillé différents types de matériaux. On utilise effectivement de la laine de bois. Et moi, je vais finir sur ça. Je trouve ça intéressant. On se parle toujours beaucoup de ce qu'on a réussi sur le village des athlètes, mais on n'a pas tout réussi. Il y a des choses aussi qu'on a un peu ratées. Et la question du béton de chanvre, c'est un sujet qu'on a essayé de pousser. On a poussé Inatex, qu'on n'a pas eu. Et je trouve ça intéressant. Au final, on a fait de la laine de bois. C'est très vertueux. Ça permet d'avoir surtout du confort d'été et du confort d'hiver, de limiter la facture énergétique pour les personnes qui payent chaque jour en fait leur facture d'électricité et leur facture de chauffage. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est aussi le sens de nos projets, en fait, de porter des leviers de transformation, des leviers de risque, d'innovation. Et l'innovation, c'est aussi accepter. Parfois, on ne réussit pas. Même si on a réussi beaucoup de choses. Et en tout cas, on n'a pas perdu au passage, puisque nous, on a tous appris individuellement énormément.
Moi, je resterai bien une heure ou deux plus avec vous. mais il est bientôt l'heure de nous quitter. Je vous propose un jeu que connaît bien Frédéric, puisque j'ai déjà fait en interview et aussi en séminaire. Je vous propose un jeu un peu sympathique pour terminer cette table ronde. Vous êtes d'accord ? Très spontanément. Merci. Je vais vous demander à chacun de choisir un mot, un adjectif qui qualifie les propos que l'on vient de partager ensemble et qui illustrerait le propos, mais dites-le très spontanément. Je vais commencer par Frédéric.
Qualité de ville.
Alors, un mot, il me faut.
Ah, juste le mot.
Oui. Un mot illustrant.
Durable.
Durable.
Adaptabilité.
Christine. Adaptabilité. Élodie.
Disciplinarité.
Disciplinarité.
Pluridisciplinarité.
Pluridisciplinarité. Alors, si on veut aller vers une forme de pluridisciplinarité, encore faut-il faire preuve à la fois d'adaptabilité pour avoir une vision durable de ce que l'on construit au quotidien. Ce sera la conclusion de cette table ronde. Merci Frédéric Marchal. Je rappelle qu'il est directeur général adjoint pour l'immobilier résidentiel délégué régional pour la région. C'est Rhône-Alpes, on est surtout de la région Rhône-Alpes pour les marques de Nexity. Merci Frédéric, toujours un plaisir de partager un moment avec vous sur le plateau. Merci Christine Verrague, qui est directrice immobilier des régions pour promotion pour Nexity Entreprises. Également à Élodie Benoît, directrice générale de Ville et Projet pour Nexity Transformation des Territoires. Et on va recevoir d'ailleurs dans quelques instants notre super président, Jean-Luc Porcedo, justement pour parler de différents projets, notamment sur l'aménagement. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. On vote, hein. On vote pour les deux projets lauréats. Et si vous êtes qualifié, vendredi matin, vous êtes ici sur le plateau pour célébrer ça avec une belle coupe de champagne. C'est tout ce que l'on vous souhaite. Je rappelle que vous aviez été qualifié l'an dernier aussi pour le site de Deloitte, hein, quand même. Donc,
que vous avez eu.
Et ça serait bien pour être gourmand, c'est qu'on ait aussi une récompense cette année. On est d'accord là-dessus ?
On serait ravis.
Voilà. Parce que le mieux, c'est toujours mieux que le bien, dans une certaine mesure. Merci à vous trois. Et on enchaîne tout de suite avec nos programmes.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.